Wim Wenders, Rintaro, Alain Tanner, Jane Birkin, Alfonso Cuarón, pas de doute, nous sommes bien à Lyon au Festival Lumière. Bonjour à tous, vous écoutez Revue et Corrigée, la grande vadrouille, le tour de France des festivals de cinéma par Revue et Corrigée. La Grande Vadrouille au Festival Lumière 2023, épisode 1. Aujourd'hui, nous allons fêter les 100 ans de Disney. Nous allons découvrir le Rebirth programme du marché international du film classique. Mais tout d'abord, on a rendez-vous avec l'écrivain et journaliste Olivier Barrault pour parler de Maine Océan 1985 de Jacques Rosier. Nous voici donc à l'hôtel Mercure de Lyon, près du centre névralgique du festival, l'Institut Lumière, en compagnie du journaliste et écrivain Olivier Barrault. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous allez nous parler de Maine Océan, de Jacques Rosier. En un mot, c'est un film qui parle de quoi ?
C'est une espèce d'aventure, c'est un voyage. C'est presque un travel movie qui débute à la gare Montparnasse à Paris et qui va emmener les protagonistes dans l'ouest de la France, jusqu'à l'île Dieu d'ailleurs, qui est en Vendée je crois. Et il va leur advenir évidemment toutes sortes de rencontres étonnantes. C'est un film qu'on ne voyait plus depuis très longtemps, qui remonte à une cinquantaine d'années maintenant. Et qui reste d'une fantaisie, d'une liberté de ton et aussi d'une qualité d'interprétation absolument sidérante. Ça a été pour ceux qui l'ont vu ou revu ces jours-ci, une véritable redécouverte, car Jacques Rosier, qui vient de nous quitter après 100 ans d'âge, n'a réalisé que 5 longs métrages au cours de sa carrière, ce qui est très peu, mais tous ses films sont mémorables.
Oui, c'est vrai, on ne les connaît pas forcément tous, certains sont très très peu vus, c'est le cas de Maine Océan, oui. Notamment. Et c'est vrai que le Festival Lumière est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ces films. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Maine Océan ?
Oui, absolument. Non seulement vous n'étiez pas né, mais beaucoup de vos auditeurs ne l'étaient pas non plus. C'était il y a très longtemps au Festival de Cannes, dans les années 80. C'était dans la compétition parallèle, je crois, à la quinzaine des réalisateurs, si mes souvenirs sont justes. Et Rosier n'avait pas tourné depuis une bonne dizaine d'années. Il avait tourné du côté d'Orouette dans les années 70, qui d'ailleurs d'une certaine façon ressemble pas mal à Maine Océan, avec le même Bernard Ménez d'ailleurs. Et puis grand silence, très grande difficulté à monter les films pour lui, autrement dit à les faire financer. Et voici qu'il se lance avec Maine Océan, et le film a été unanimement loué lors de sa présentation au Festival de Cannes. Je ne suis pas sûr que ça ait été un grand succès public, mais c'est un film totalement original dans la forme, assez mal foutu d'ailleurs, on voit bien qu'ils ont manqué d'argent, l'image n'est pas toujours impeccable, mais le mode de récit, la façon de raconter cette histoire à travers des personnages tout à fait étonnants, tout à fait étranges, à peine définis d'ailleurs, tout ça a un charme fou, et pour avoir présenté le film hier et l'avoir revu avec le public, je peux attester de l'impact qu'il a eu sur les spectateurs.
C'est vrai, quand on évoque Jacques Rosier, on pense tout de suite à Adieu Philippines, oui. Et pas forcément au film suivant, et notamment oui. Maine Océan. Qu'est-ce que vous diriez à un spectateur qui n'aurait pas eu l'occasion de découvrir oui. ici au Festival Lumière ou ailleurs pour l'inciter
Alors,
à découvrir
Maine Océan, c'est vraiment un film dont le ton du récit est absolument singulier. C'est le ton d'ailleurs de Rosier hein, qu'il a utilisé dans les précédents et dans les suivants. Et encore une fois, il n'y en a pas eu beaucoup malheureusement. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une espèce d'improvisation tous les jours, quotidienne, que tout ça est tourné un peu à la va comme je te pousse, surtout sous forme de plan-séquence. Rosier laissant à ses interprètes, à Ménez, mais pas seulement, la possibilité de s'exprimer. Je ne sais pas si les dialogues de Maine Océan ont été pré-écrits par le réalisateur, qui est l'auteur à la fois du scénario et des dialogues, avec une fille formidable d'ailleurs qui s'appelle Lydia Feld, qui était sa compagne à l'époque et qui joue dans le film, qui est très très bien. Mais on a l'impression d'une espèce de décontraction, du plaisir de raconter une histoire en se libérant de toutes les contraintes, que ce soit d'ailleurs les contraintes de lumière, des contraintes de son. On n'entend pas toujours très bien ce qu'ils se disent. Et puis tout d'un coup, l'irruption de personnages incroyables. Par exemple, celui que joue ce comédien, malheureusement un peu oublié, qui s'appelait Yves Afonso, qui est un natif de l'île de Ré dans le film, et qui parle une langue qu'on ne comprend pas complètement. Il a un accent local extrêmement fort, et ce qu'il fait est sidérant. On est constamment surpris. Et alors, du point de vue de l'image, j'insiste là-dessus, c'est un film assez long, hein, qui doit durer 2h15, quelque chose comme ça. La toute dernière partie du film, moment où Bernard Ménez, qui joue le rôle d'un contrôleur de billets de train à la RATP, à la SNCF, excusez-moi, pour une raison ou pour une autre, il est sur l'île Dieu et il doit rejoindre absolument la ville de Nantes. Mais il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a rien du coup, il ne peut pas prendre l'avion, il ne peut pas prendre... Et il va passer de bateau en bateau et finir par effectivement rejoindre le convoi qu'il doit, dans lequel il doit travailler, il doit contrôler les billets, etc. Et bien la manière dont Rosier a filmé cette espèce de longue promenade éperdue des différents bateaux qu'il emprunte pour arriver sur le rivage et de là gagner laborieusement la gare de Nantes, c'est extraordinaire. À soi seul, cette séquence qui doit durer une bonne vingtaine de minutes, quant à la manière dont c'est mis en scène, c'est exemplaire. C'est un film qui ne ressemble à aucun autre, sinon précisément au précédent film du même Jacques Rosier. C'est-à-dire qu'il a un style.
C'est Maine Océan de Jacques Rosier à découvrir ou redécouvrir au Festival Lumière. Merci beaucoup Olivier Barrault.
Merci à vous.
De Jacques Rosier à Walt Disney, grand écart ? Non, le Festival Lumière. On file retrouver Sébastien Durand, spécialiste de Disney, pour évoquer un vertigineux anniversaire, les 100 ans de Disney. Nous voici dans la loge VIP du Festival Lumière. C'est très agréable, on s'y sent à l'aise, il y a du café, de l'eau. Et nous sommes en compagnie de Sébastien Durand, spécialiste Disney. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors hier, on fêtait un anniversaire, les 100 ans de Disney. Qu'est-ce qui s'est passé il y a exactement 100 ans, en 1923, pour que ce soit la date de naissance de Disney ?
Eh bien, le 16 octobre 1923... Walt Disney et son frère, Roy, signent leur premier contrat pour distribuer une série de dessins animés qu'ils ont l'intention de créer. Et c'est ce contrat, puisqu'en fait l'entreprise n'existe même pas, c'est un partenariat entre les deux frères simplement, mais c'est la première fois qu'ils signent leur contrat. Et donc ça marque la naissance du Disney Brothers Cartoon Studio, devenu bien plus tard de Walt Disney Company.
Oui, c'est une date à la fois fondatrice et aussi symbolique, je pense, dans l'idée de donner une naissance.
Oui, chez Disney, il y a toujours cette histoire. Est-ce qu'on on aime fêter les anniversaires dans la Walt Disney Company? Donc, ils aiment bien, effectivement, trouver des dates symboles. Est-ce que Mickey est né lorsqu'on a fait son premier dessin? Est-ce qu'il est né lorsqu'on a fait son premier cartoon? Ou est-ce qu'il est né lorsque son premier cartoon est sorti, le 18 novembre 1928? C'est la date qui est généralement retenue. Mais oui, souvent, ça fait l'objet de débats. Walt Disney, en fait, avait déjà fondé deux studios précédemment à celui-là, qui ont fait faillite très, très rapidement. Il avait 19 et 21 ans quand il les a fondés. Donc c'est cette fois-ci où ça marche, mais finalement ça va vraiment décoller 5 ans plus tard avec la naissance de Mickey.
Ce qui est amusant dans le facsimilé du contrat signé, on reconnaît tout de suite la signature de Walt Disney qui est vraiment qui est aussi l'image de marque, presque le logo de l'entreprise.
Ah ouais, Walt Disney c'est un nom, c'est un individu et c'est effectivement une marque, donc sa propre signature a été adaptée pour devenir un logo. En fait Walt Disney était tout le temps sollicité pour signer des autographes et donc il y avait tout un nombre de personnes au studio qui étaient entraînées à imiter la signature officielle de Walt Disney sur des photos et qu'on pouvait envoyer aux milliers de gens qui en demandaient, et puis lui-même garder dans la poche de sa veste toujours des photos pré-signées car il avait toujours peur qu'on l'arrête parce qu'il disait si on m'arrête ça fait un attroupement. Donc en fait dès qu'on lui demandait un autographe il sortait une photo déjà signée et parfois pas signée par lui. Donc aujourd'hui lorsqu'elle se vend aux enchères il y a beaucoup de débats sur les spécialistes pour savoir si on peut dire que cette photo est signée par Walt Disney ou avec une signature approchant celle de Walt Disney.
Alors hier soir au Festival Lumière, on a célébré les 100 ans. Il y a eu plusieurs célébrations partout. Disney célèbre en grande pompe cet anniversaire, évidemment. Au Festival Lumière, c'était accompagné de la projection du Livre de la Jungle. Vous savez pourquoi on a choisi ce film pour célébrer les 100 ans ?
Alors il y a plein de films en fait, il y a une quinzaine de films qui sont projetés dans le cadre du Festival Lumière, qui sont les classiques intemporels de Disney, donc il y a Cendrillon, il y a Alice au Pays des Merveilles, il y a eu effectivement le Livre de la Jungle devant 3 ou 4 000 spectateurs, dont de nombreux enfants, donc je vous assure que revoir pour eux, c'est la première fois sans doute qu'ils le voient sur un grand écran, parce que maintenant on ne voit plus que les nouveaux Disney sur les grands écrans.
Donc là, Tony Garnier.
Exactement. Et donc ça a été fait il y a quelques jours. Hier, ce qui a eu lieu, c'est une projection de court-métrage retraçant l'histoire de Disney depuis les tout premiers essais de Walt Disney, avant même 1923, puisqu'il y avait un dessin animé, j'ai présenté un dessin animé qui date de 1922, une sorte de Cendrillon modernisé, mais en noir et blanc, en muette, et aujourd'hui pas du tout moderne, mais à l'époque pour moderne, et jusqu'à la révélation du nouveau dessin animé de Mickey qui a été présenté hier et qui s'appelle Il était une fois un studio, qui est disponible aussi maintenant sur les plateformes, mais qui a été présenté là sur un grand écran et qui est un hommage à 100 années d'animation.
Qu'est-ce que cette évolution, elle raconte finalement, pourquoi une nouvelle image maintenant?
Je crois que ce qui caractérise Disney à travers ses 100 ans, c'est le plaisir de raconter des histoires. Et c'est à la fois la force des histoires, la proposition artistique qui est faite à chaque fois et l'utilisation de technologies qui sont toujours le top de ce que la technologie permet au moment où c'est fait. On l'a dit, Mickey est né en 1928, c'est le premier cartoon sonore, un premier cartoon avec son synchronisé. Walt Disney a réalisé les premiers dessins animés en couleur, les premiers dessins animés avec profondeur de champ. Et hier, le dessin animé qui s'appelle, donc il est une fois un studio, permet de montrer en 9 minutes. Alors déjà, c'est Mickey qui veut faire la plus grande photo de famille de l'histoire de l'animation. Donc une fois que le studio ferme ses portes le soir, donc c'est filmé vraiment dans les studios Disney en Californie. Et une fois que les studios ferment leurs portes le soir, tous les personnages sortent des cadres où on les a mis sur les murs et ils vont poser pour la photo. Il y a 543 personnages qui posent, donc un cartoon qui dure 8 minutes plus le générique, ça fait plus d'un personnage par seconde. Et surtout, technologiquement, là où c'est très intéressant, c'est que tous les personnages ont été retracés tels qu'ils étaient dans les films, c'est-à-dire que les personnages en 2D sont en 2D, les personnages en 3D sont en 3D, et la difficulté, c'est de les faire interagir, parce que des personnages en 3D, c'est assez facile, ils sont en volume, les personnages en 2D sont plats, et Vaiana, qui est en 3D, regarde Polochon, le petit poisson de la petite sirène, pour que les deux regards s'alignent. En fait, ça demande un gros travail.
Et vous, est-ce que vous avez un Disney préféré, si vous deviez en choisir un parmi les nombreux films d'animation réalisés par le studio?
Moi, je choisis la solution de facilité. C'est le premier que j'ai vu parce que c'est peut-être là que ma passion est née. Et pour moi, c'est doublement symbolique parce que le premier que j'ai vu, c'était Blanche-Neige et les Sept Nains lors d'une ressortie du film. Et je n'ai appris plus tard en grandissant que c'était vraiment le premier long métrage d'animation. Et donc, j'avais toujours ressenti, quand j'étais petit, dès le début, j'ai ressenti quelque chose de spécial dans ce film, alors que j'attribue au plaisir et à la foi qu'avaient les animateurs de travailler sur quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ça, je l'ai appris plus tard, je l'ai appris même en rencontrant certains des artistes qui avaient participé à cet âge d'or. Et donc pour moi, ça reste vraiment le film indépassable de Disney. C'est pas le mieux animé, c'est pas le plus moderne aujourd'hui, mais c'est le premier que j'ai vu et je crois que les premières fois, ça compte toujours.
C'est la Madeleine de Proust aussi. S'il y avait peut-être un Disney moins connu que les autres, parce que c'est vrai qu'il y a des grands classiques, des films qu'on connaît tous ont grandi avec certains de ces films. Et puis est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être des pépites méconnues chez Disney à retrouver?
Oui, quand on parle de classique, on pense à un premier âge d'or qui va de Blanche-Neige à Bambi, un deuxième âge d'or qui va de Cendrillon au Livre de la Jungle, un troisième âge d'or qui commence à la fin des années 80. Moi, j'aime beaucoup les films des périodes intermédiaires qu'on connaît un petit peu moins, les films des années 40 qui sont des compilations de dessins animés, comme La Boîte à Musique, comme Coquin de Printemps, dont les titres, quand je les évoque comme ça, ne doivent pas dire grand-chose à beaucoup de gens qui nous écouteront, mais qui sont des films charmants. Et puis, comme je suis un enfant des années 70, qui est une période considérée un petit peu comme mineure dans l'animation, mais moi j'ai grandi avec Les Aristochats, Robin des Bois, Bernard et Bianca. Ce sont des films pour lesquels j'ai une affection particulière, même si en tant que spécialiste, quand je vois pas mal de défauts dans l'animation quand je les regarde, mais ils ont un charme fou. Et encore une fois, je crois que quand on est enfant, ce qui est bien avec les Disney, c'est que l'animation peut vieillir. On pense aussi quand Pixar a fait Toy Story, quand on regarde le premier Toy Story aujourd'hui, la 3D est largement dépassée, notamment sur les personnages humains. Mais l'amitié entre Woody et Buzz, la fabuleuse histoire que ça raconte, ça change pas. Et c'est ça qui, à travers 100 ans de Disney, traverse le temps, c'est que dans Blanche-Neige, dans Pinocchio, dans Bambi, il y a des choses qui ne vieillissent pas, alors que ce sont des films que nos arrière-grands-parents ont vus avant nous. Ce sont des films qui datent les longs métrages ont plus de 80 ans. Donc ça, c'est assez remarquable, parce qu'en fait, quand les enfants d'aujourd'hui les voient, et c'est ce que montre le festival ici, Lumière, avec ses 100 ans, c'est que quand on projette aujourd'hui Cendrillon ou Alice au Pays des Merveilles ou le Livre de la Jungle ou Mary Poppins, les enfants le voient comme un film nouveau, ce qui était l'idée que j'avais quand j'étais petit. Quand j'allais voir La Belle et le Clochard, je croyais que c'était le nouveau Disney. Je ne savais pas que mes parents l'avaient déjà vu, parfois même que mes grands-parents l'avaient vu.
D'ailleurs, souvent les gens qui disent n'avaient jamais avoir vu de films des années 50, des années 60, oublient qu'ils ont vu les Disney et qu'ils sont des films aussi ancien pour certains.
C'est le seul studio qui a vraiment fait une grande partie de son développement avec des ressorties. Les films, les grands studios américains notamment, quand un film avant l'ère de la vidéo et de la télévision, quand un film était sorti, une fois qu'il était terminé, c'était fini, on ne le revoyait pas. Et des années après, quand on voulait le ressortir, on préférait souvent faire un remake parce qu'on disait bah, les gens l'ont oublié, il y a 20 ans, ça a vieilli. Il n'y a que Disney qui, à travers son histoire, s'est toujours dit, et c'était la force, Walt Disney savait qu'il beaucoup de ces dessins animés ont perdu de l'argent lors de leur première sortie. Pinocchio, Fantasia, Bambi ont par exemple été des échecs lorsqu'ils sont sortis. Et puis aujourd'hui, Bambi par exemple est le deuxième film le plus vu en France de Disney. Donc avec le temps, ça devient des classiques et avec le temps, le studio s'y retrouve. Mais ça peut prendre du temps.
Merci beaucoup Sébastien Durand. En attendant de découvrir le nouveau Disney de Noël, on peut toujours voir et revoir les classiques de Disney. Et merci, certains classiques comme ceux de Disney sont encore facilement visibles. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Les rendre plus visibles encore, c'est l'objectif du marché international du film classique. Et le MIFC s'est doté cette année d'un outil supplémentaire, le Rebirth Programme. Alors de quoi s'agit-il ? On va voir ça tout de suite avec Anaïs Derieux et Gérald Duchaussois, chargés de mission et de programmation au MIFC. Alors nous voici dans une salle de réunion, une salle privatisée du marché international du film classique, une nouveauté cette année, en compagnie de Gérald Duchaussois, responsable de la programmation, et d'Anaïs Derieux, en charge du Rebirth Programme. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Pierre.
Vous partagez le micro, donc il y a un peu un temps de latence entre les deux personnes, mais ça ira très bien. Donc le Rebirth Programme, c'est un nouveau programme cette année au sein du marché international du film classique. En un mot, de quoi il s'agit ?
Oui, effectivement, c'est une nouveauté 2023, tout comme cette salle de réunion. De quoi il s'agit ? Pour nous, il était important d'assumer davantage notre rôle de facilitateur, de rencontre, de nouveaux accords entre les professionnels accrédités. Nous avons donc mis en place deux sessions de pitch de projet pour nos professionnels. La première session concerne des films récemment restaurés et labellisés Lumière Classics. Donc ce sont aussi des films qu'on peut voir au festival. La deuxième session concerne des films avec un projet de restauration, à différents stades d'ailleurs.
Donc si je comprends bien, il y a un peu donc, ces deux sessions, une qui vise plus les exploitations futures de ces films, la diffusion des films, et une autre qui, dont c'est des films qui ne sont pas encore restaurés, mais dont l'enjeu est effectivement de trouver des financements à travers ces futures exploitations pour déjà restaurer les films.
Oui, tout à fait. Dans les deux cas, de toute façon, la question de la diffusion se pose. Hein. Trouver des mandats, qu'il s'agisse d'une ressortie complète ou partielle. En tout cas, c'est trouver de nouveaux accords, que ce soit pour voilà, un complément territoire ou sur certains médias. Mais effectivement, dans le cas du Rebirth 2, donc des films avec un projet de restauration en cours ou à mener entièrement, il y a aussi la question de trouver des partenaires pour finaliser ce projet de restauration.
Il s'agit de quel type de film ? J'ai un peu regardé la liste, alors il y en a plusieurs, mais c'est effectivement des films dont on se dit il y a du potentiel. Je pense par exemple au premier film de Michael Haneke. Pouvez-nous dire un mot sur certains des films qui sont présentés à cette occasion ?
Effectivement, l'un des projets concerne les quatre premiers téléfilms de Michael Haneke, qui sont d'ailleurs très bons. Ou Mort d'un cycliste, qui est un classique espagnol. On a des films qui ont une certaine renommée. Nous, ce qu'on a privilégié, c'est la diversité en termes de format, en termes de films, de propositions, mais aussi de représentativité en termes de territoire ou de type de société. Pour nous, c'était important que des porteurs de projets indépendants soient tout aussi représentés que des sociétés plus importantes.
Ça s'adresse à qui sont les personnes qui peuvent être présentes ?
Alors, c'est accessible à tous les accrédités du MIFC, mais bien sûr, ça s'adresse en priorité aux acheteurs, à tous les professionnels en mesure de se positionner sur ces films. Mais aussi, on peut imaginer des formes de collaboration moins évidentes comme ça quand on y pense. Mais par exemple, on voudrait aussi encourager des mutualisations. On a souvent remarqué qu'une édition DVD pouvait sortir en France et 2 mois plus tard en Allemagne. Et finalement, le travail était fait 2 fois. On est dans une industrie où on a besoin de limiter les coûts et il y a sans doute quelque chose à réfléchir pour mener un travail commun et après peut-être sortir évidemment 2 éditions avec un marketing différent, mais en tout cas voilà, il y a des coûts de récupération de matériel, de recherche, des coûts techniques qui pourraient être mutualisés.
Pourquoi avoir eu la nécessité de créer ce moment un peu formel au sein du marché ? Parce qu'on peut se dire que les enjeux de restauration, de diffusion, ils sont là dès le départ, dès la création du marché international du film classique, et que ces échanges se font aussi de manière informelle là au sein du marché. Pourquoi avoir créé maintenant un espèce de moment consacré à ça au sein du marché cette année ?
On est bien d'accord que ces échanges avaient déjà lieu avant, mais le marché grossit. On a de plus en plus de nouveaux entrants qui sont plus habitués des formats dans les festivals de films frais et qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir identifier les acteurs, disons, historiques de l'industrie du cinéma de patrimoine. Ils ne se connaissent pas tous forcément. Et aussi, voilà, pour simplifier, pour identifier plus facilement, plus rapidement un certain nombre de films. Voilà, nous, on impulse sur un certain nombre de projets et on espère que les collaborations et les échanges se prolongeront sur d'autres projets.
Merci. Oui, il y avait une volonté après la 10e édition de repenser le marché de fond en comble. Donc déjà, ça a commencé par une remise à plat du lieu marché qui a été agrandi avec un bar central, à nouveau des box parce qu'il y avait des demandes de la part des professionnels pour que des stands soient très présents et occupent plus d'espace à l'intérieur même du marché. La volonté aussi d'avoir, évidemment, comme dans tout marché, plus d'acheteurs, parce que c'est c'est un peu la force vive d'un marché, c'est d'avoir des acheteurs. Donc on a à peu près 65 acheteurs qui viennent au marché cette année sur une population de 530 accrédités en provenance d'une trentaine de pays représentés. Donc ça fait un peu plus de 10% d'acheteurs. Et donc pour cela, bien évidemment, il faut qu'il y ait des projets à leur proposer. Et donc cette idée de Rebirth qui a été initiée par Juliette Rajon, Anaïs Derieux, était véritablement d'impulser l'acte d'achat vis-à-vis des acheteurs et d'aller vers une dynamique propre aux films frais et d'éloigner un peu plus le marché de ce qui peut être une tendance aux discussions autour de la conservation, ces aspects juridiques très forts. Tout cela est évidemment passionnant et fait partie de l'ADN du marché. Mais nous, en tant que marché, nous avons besoin de faire croître toutes ces discussions pour qu'elles arrivent sur un terrain financier qui est tout à fait capital à l'heure actuelle et d'étendre ces discussions financières au-delà pour aller vers la diffusion, pour que les films soient vus. C'est toujours dans cette optique-là que nous travaillons.
Oui, c'est pour ça qu'il y a une programmation de films, un peu comme il pourrait y en avoir au festival ou dans n'importe quel festival, une sélection de films, une espèce de nouvelle actualité de ces films-là qu'on peut découvrir ou qu'on peut avoir envie de redécouvrir. Qui a sélectionné ces films ? Pourquoi c'est ces films-là et pas d'autres finalement ? C'est des propositions qui vous sont venues des ayants droit ? Il y a eu un choix ?
Toute l'équipe, en fait, s'est associée pour travailler sur les dossiers et puis aller vers une représentation assez large, travaillant par zone géographique et puis aussi par intérêt artistique et économique des œuvres.
Et une précision, on a ouvert un appel à projet. Hein, donc, les professionnels pouvaient nous soumettre des projets et tous les dossiers ont été étudiés, évidemment.
Donc là, on est au tout début du marché international du film classique, mais pourtant, il commence déjà à battre son plein. On l'entend un peu derrière moi. Il y a ce brouhaha habituel qui suit en général les débats et les présentations. En quelques mots, c'est quoi les highlights cette année, les grands moments qu'on attend au marché du film ?
Alors, nos invités spéciales dans moins d'une heure maintenant, qui seront Ella Wenders et Claire Brunel de la Wim Wenders Stiftung, qui est donc la fondation de Wim Wenders pour la conservation et l'exploitation de son patrimoine cinématographique, artistique, photographique. Et aussi mais de littéraire. Donc c'est un vaste terrain d'exploitation avec une fondation qui est plutôt hybride et passionnante dans son analyse. La volonté aussi du marché de mettre en avant des professionnels femmes, donc professionnels 2LE, S en l'occurrence, pour véritablement montrer qu'il y a aussi cette inclusivité au sein du marché, et puis aussi montrer le dynamisme des professions étrangères. Et là, je vais passer la parole à Anaïs. Le documentaire est très, très présent cette année au sein du marché. Anaïs a travaillé sur deux grandes tables rondes. Nous avons aussi travaillé à l'avenue de Cuba, qui est un pays qui produit plus de documentaires que de fiction, qui a les Noticieros. Nous avons aussi travaillé autour du documentaire sur un autre aspect plus juridique. Enfin, nous avons essayé vraiment d'aller vers de nous saisir pleinement de cette année du documentaire initié par le CNC.
Oui, le documentaire comme un fil rouge de cette édition. Effectivement, on a profité de l'occasion de l'année du documentaire en France pour traiter le sujet plus spécifiquement. Alors attention, le documentaire avait toujours été englobé dans nos thématiques auparavant, que ce soit film de fiction ou film documentaire, quelque part le sujet était traité, mais on ne l'a jamais fait spécifiquement. Et oui, il y a quand même des spécificités liées à ce genre, dès la fabrication et qui se répercutent jusqu'à l'exploitation et donc dans toute la filière du patrimoine. Et c'était intéressant d'aller plus en profondeur. Donc oui, il y a deux tables rondes, état des lieux. La première a eu lieu ce matin et portée sur où est le documentaire de patrimoine, et la deuxième, plus centrée sur la diffusion du documentaire de patrimoine, aura lieu demain. Et effectivement, Bruno Delois de Ciné Plus est un de nos invités spéciaux, et l'école du documentaire cubain, que Gérald présentera bientôt. Bref, voilà, plusieurs activités, plusieurs personnalités autour du documentaire cette année, et pour le moment, ça marche bien.
Ça a l'air, effectivement. On suivra ça, en tout cas, de près dans la Grande Vadrouille tout au long de la semaine. On entendra aussi notamment Claire Brunel pour parler du Wim Wenders Stiftung, qui fait aussi un lien avec le festival à nouveau, Wim Wenders ayant le prix Lumière. Merci beaucoup à vous deux, Anaïs Derieux, Gérald Duchaussois, et je vous souhaite bon courage pour la suite. Gérald voulait ajouter quelque chose, peut-être.
Non, je voulais juste vous remercier. Nous attendons les accrédités toujours plus nombreux.
Effectivement, on sent qu'ils sont nombreux. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, Revue et Corrigée, La Grande Vadrouille, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast a été réalisé par les équipes de Revue et Corrigée en partenariat avec le Festival Lumière. À demain pour l'épisode 2.